Bonjour, bonjour. Et nous voilà sur les antennes de Radio Galère pour cette nouvelle édition de l'actualité internationale vue par Comaguerre, ce qui veut dire, je le rappelle, comprendre et agir contre la guerre. Je remercie Roselyne de sa présence active de l'autre côté de la vitre de la cabine. Et je signale aux auditeurs habitués à l'émission que notre ami Habib, habituellement fidèle, a des soucis de santé dans sa famille et donc n'est pas des nôtres, mais on garde le contact avec lui, puisque vous savez qu'il est spécialement au courant de toute l'activité dans le monde arabe, puisqu'il parle l'arabe, il l'écoute sur un certain nombre de chaînes de bonne qualité, et donc il nous apporte souvent des éléments sur la situation dans cette région-là du monde qui méritent d'être écoutés. Je vais commencer par les succès de la gestion macronienne. Et là, alors, effectivement, je pourrais faire quasiment toute l'émission là-dessus, mais on pourrait en faire beaucoup sur les succès, je mets d'énormes guillemets, de la gestion macronienne. Je n'insiste pas sur la gestion de la situation nationale, puisque vous savez qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, qu'on ne sait pas s'il y en aura un, quand il y en aura un. On sait que par ailleurs, un certain nombre de décisions se prennent, que en particulier, je vais en citer quelques-unes. On sait qu'on fait comme si le gouvernement démissionnaire n'avait pas vraiment démissionné et était là quand même aux commandes, au cas où. Alors, on ne sait pas si le gouvernement est aux commandes, mais en tout cas, M. Macron, lui, ne s'est pas gêné pour commettre un certain nombre de bévues. Et quand je dis bévues, je suis gentil avec M. Macron. Parce que la première bévue, c'était, souvenez-vous, il y a quelques semaines, M. Macron avait changé complètement, radicalement, la position de la France sur la question du Sahara occidental. Je rappelle, cette ancienne colonie espagnole, à qui l'Espagne a donné son indépendance au sortir du franquisme, disons, pour faire simple, attend depuis cette période-là, depuis 1974-1975, que le mandat de l'ONU parfaitement clair visant à ce qui est donc un référendum d'autodétermination de cette ancienne colonie espagnole dont le tracé est tout à fait clair ait lieu, pour savoir si effectivement cette colonie devient indépendante ou elle ne le devient pas. Alors il y a un pays qui ne veut pas qu'elle le devienne, qui s'appelle le Maroc, et qui, en réponse ironique ou en réponse honteuse, j'allais dire, à la position de l'ONU, a fait comme si l'ONU n'existait pas. Le Maroc a piétiné, là aussi, c'est des leçons qu'il a prises, je pense, en Israël, là où il a beaucoup de bonnes relations. Donc le Maroc a piétiné les positions de l'ONU et a organisé ce qu'on a appelé à l'époque la marche verte. Ça consistait à envoyer des dizaines de milliers de Marocains appuyés par l'armée et à dire « il y a une partie de ce pays-là qui est chez nous ». Et comme par hasard, on a pris le bord de mer, de telle façon que ce qui reste aujourd'hui entre les mains des Sahraouis qui sont toujours en attente de leur référendum, c'est l'intérieur quasiment du Sahara. Donc ils sont bien à l'aise, ils ne peuvent pas avoir accès à la mer, donc ils peuvent avoir accès à quasiment rien du tout. Heureusement que de l'autre côté de la frontière donc orientale de ce morceau de territoire du Sahara ex-espagnol, il y a l'Algérie, par lequel il peut arriver quand même un certain nombre de choses. Mais autrement, il ne faut évidemment rien attendre du Maroc pour qu'il passe quoi que ce soit dans le sens d'alimenter simplement, de permettre de manger, de circuler, de faire du commerce à la population sahraoui. Je souligne quand même à cette occasion, et je n'ai pas pointé, j'avais un petit doute, et peut-être Roselyne m'éclairera. Je pense qu'aujourd'hui, le seul pays d'Afrique où il y a encore un monarque, c'est le Maroc. J'en vois pas d'autres. C'est-à-dire que le Maroc se signale comme étant le plus rétrograde de tous les régimes africains. Alors en plus, c'est un roi qui gouverne vraiment, c'est-à-dire qui ne se laisse pas du tout influencer par une opinion qui a de la peine à s'exprimer, qui a une police politique très très redoutable. Donc on a une monarchie réactionnaire qui est, je pense, la dernière monarchie sur le continent africain. Alors il y a peut-être, j'ai eu un doute sur les autos, sur les semi-morceaux de l'Afrique du Sud, mais ça serait tout, quoi. Mais autrement, tous les pays réellement existants sont tous devenus au moins des républiques. Alors il y en a de plus en plus autoritaires, il y en a de plus en plus réellement démocratiques, mais le régime monarchique a disparu d'Afrique, sauf au Maroc. Et curieusement, on est dans la politique macronienne, c'est ce régime-là, le régime le plus réactionnaire, le seul régime monarchique réel d'Afrique, que l'Élysée soutient, que Emmanuel Macron soutient. Et il l'a fait de telle façon que, donc, en renversant les positions françaises qui n'avaient jamais varié depuis la prise de position initiale de l'ONU, appelant, donc disant qu'il faudrait un référendum d'autodétermination puisque les Sahraouis avaient le droit de se prononcer sur leur avenir, hein, l'autodétermination, ça s'appelle, c'est dans les statuts de l'ONU. Bon, M. Macron a fait comme s'il ne s'était jamais rien dit, comme si la diplomatie française n'avait jamais soutenu cette position, et a dit, bien entendu, le Sahara espagnol appartient à l'Espagne. C'est tout à fait fâcheux, puisque M. Macron, se faisant, a insulté l'ONU. Il n'est pas le premier à le faire, Israël le fait tous les matins, le Maroc l'a fait à ce propos et à d'autres occasions, mais on espérait, mais je veux dire... Peut-on espérer quoi que ce soit de ce personnage ? Rien. Il n'y a rien à espérer. Il n'y a qu'à attendre de mauvais coups tordus comme celui-là. C'est-à-dire, je me lève le matin et je me dis qu'en même temps, j'adore les Sahraouis, mais qu'en même temps, je les déteste et que voilà, je reconnais que le Maroc est chez lui, qu'on n'en parle plus. Voilà. Ce personnage est une calamité nationale. Je le souligne, et qui utilise à son profit une constitution qui a été faite par un autre et pour un autre, et qui fait la preuve aujourd'hui, je ne vais pas insister là-dessus, ça fait partie du quotidien de toutes nos gazettes, cette constitution ne fonctionne plus. Elle ne peut pas marcher, surtout quand elle est manipulée par une équipe de malhonnêtes. Bon. Qui essaye de tricher avec les intentions, le texte, etc. Et où jouer sur le mot à mot du texte pour appliquer une autre politique. Bon, je ne vais pas plus loin là-dedans, parce qu'à la limite, je dirais ça toutes les semaines pendant, j'espère pas trop longtemps, mais quand même, ça fait déjà un certain temps. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que M. Macron avait renversé la position française historique sur la question du Sahara occidental. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, j'ai eu le plaisir d'une espèce de vengeance indirecte et sur laquelle je ne pouvais rien et dont je ne suis pas l'auteur. Il s'est tenu au Japon, ces derniers jours, un sommet Japon-Afrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sommet Japon-Afrique ? Alors, première observation, quand on vous dit « la Chine est partout en Afrique, elle investit, elle a des usines et tout », on ne vous dit pas que d'autres pays font la même chose. Hein ? Alors la Chine, c'est « oh, c'est les affreux », ils sont là, l'Union européenne est toujours à crier après les Africains, mais le Japon fait la même chose très régulièrement. Le Japon tient des conférences Japon-Afrique, il en tenait une la semaine dernière, pour défendre les intérêts des entreprises japonaises. C'est aussi bête que ça, c'est du commerce. Hein ? Bon, d'autres le font, la Turquie fait la même chose, d'autres peuvent le faire, pas de surprise. Bon, donc ce sommet était prévu, il était organisé très sérieusement, comme les Japonais savent le faire. Et puis, il y avait donc des invités africains. Et dans ces invités africains, le Japon, qui n'est pas dirigé par un Emmanuel Macron aux yeux bridés, avait invité les représentants de la République arabe sahraoui démocratique, qui sont un État reconnu en voie d'autodétermination par la communauté internationale. Bon. Ils étaient donc là. Mais le Maroc était invité aussi. Alors là, il s'est passé un incident qui est très très révélateur et qui est une espèce de très magistrale claque diplomatique pour M. Macron, parce qu'un des membres de la délégation marocaine, on l'a vu sur une petite vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, Roselyne, la petite vidéo, non ? On voit donc les tables sur lesquelles sont installés les délégués. On est donc dans le coin où il y a la table d'un ou des délégués de la République arabe sahraoui démocratique. Et puis tout d'un coup, on voit un espèce d'escogriffe qui se jette sur la table, qui commence à prendre le cou, à tordre le cou du sahraoui. Bon, c'est un diplomate. Ceci est un diplomate marocain. C'est dire quelle formation ces diplomates marocains ils sont faits pour le combat de rue, pour régler des comptes. C'est peut-être des gardes du corps, je ne sais pas. Bon, alors ça s'est terminé assez vite, puisque le délégué sahraoui a été défendu, l'autre a été collé au sol, ceinturé, etc., exclu. Mais ça veut dire que le Maroc arrive dans des circonstances internationales, invité à égalité avec la République arabe sahraoui démocratique, et se comporte comme ça. Ça, c'est pas un comportement de diplomate, c'est un comportement de voyou. Hein. Je règle mon compte, je vais casser la... Enfin, il lui a pas fait mal, hein. Il n'a pas eu le temps. Je vais essayer de casser la figure au représentant de la République arabe sahraoui démocratique, parce que je ne voulais pas qu'il soit invité. Seulement, le problème, c'est quand c'est le Japon qui invite, c'est pas le Maroc, c'est le Japon qui invite. C'est le Japon qui avait fait la liste des invités. Et donc, la République sahraoui avait sa place Bon. Donc, c'est un espèce de camouflet à la position de M. Macron. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des endroits où s'exprime, où se manifeste le soutien de la France au Maroc et le soutien de la France à un pays qui se comporte comme ça. C'est la monarchie chérifienne est une monarchie qui fonctionne comme ça, monarchie autoritaire, dont la police politique est redoutable, méchante, etc., et qui a dans son corps diplomatique des espèces d'engins comme ça qui viennent casser la figure aux représentants d'un autre pays. On n'est plus du tout dans la diplomatie grande, on est dans une espèce de réaction d'un régime qui croit que tout lui est permis. Et il croit que tout lui est permis, pourquoi ? Parce que qui sont les alliés politiques du Maroc ? Le Maroc, il n'invente pas sa position tout seul et il prend quand même la précaution de savoir qui va le soutenir dans ce genre d'activité, y compris dans la colonisation du Sahara démocratique. Bon. Alors, qui sont les amis ? Eh bien, c'est clair, c'est les États-Unis au premier chef, c'est Israël au deuxième chef, mais c'est un peu la même chose. Hein. Et c'était, depuis quelques semaines, grâce à Emmanuel Macron, la France qui s'était mise du côté des mêmes. Alors, que la France soit du côté des États-Unis et d'Israël sous Emmanuel Macron, on a compris. Je vais avoir en reparler d'une autre façon au cours de l'émission. Mais là, j'ai apprécié à sa juste valeur le fait que le Maroc s'est manifesté devant... Alors, le Japon, vous imaginez, un pays très, très sérieux dans sa gestion des conférences de ce type-là, très diplomate et tout, qui a dû être très, très embarrassé par l'incident. Mais finalement, ce n'est pas le Japon qui s'est déconsidéré, c'est le Maroc et ses amis israéliens, états-uniens, qui se sont ridiculisés aux yeux de la face du monde. Et Emmanuel Macron s'est ridiculisé de la même façon, parce que sa décision à lui, elle est beaucoup plus fraîche. Israël soutient le Maroc dans ses revendications depuis longtemps, les États-Unis depuis longtemps, mais le retournement de la France était un acte diplomatique isolé d'Emmanuel Macron, tout seul, sans gouvernement, sans diplomate, sans rien du tout. C'était un coup d'État tout seul dans son bureau. Pour faire plaisir à qui ? Eh bien, à ceux qui le soutiennent, qui soutiennent le Maroc d'habitude, pour faire plaisir à Israël, comme d'habitude, et pour faire plaisir aux États-Unis, comme d'habitude. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas intéressant, donc d'inféodation, je vais employer le mot parce qu'il dit bien ce que ça veut dire. Inféodation, ça renvoie au Moyen-Âge. Il y a un seigneur et il y a des vassaux. Donc il y en a un qui commande, il y a les autres qui baissent la tête, qui rendent des services, qui payent une contribution à l'occasion pour que le chef puisse continuer à faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà ce que c'est que l'inféodation. Alors là, l'inféodation vient de prendre, il y a trois jours maintenant, une forme encore plus flagrante, c'est-à-dire que c'est un citoyen français récent, citoyen français donc depuis 2021, qui vient d'être emprisonné à sa descente d'avion privé sur l'aéroport du Bourget. Alors j'explique, l'aéroport du Bourget, dans la géographie aéroportuaire de la capitale française, vous avez deux aéroports internationaux, donc Orly et Roissy, où viennent les compagnies, et puis pour l'aviation privée, donc un monsieur qui est propriétaire de son avion, c'était le cas de ce monsieur, atterrit au Bourget. Et bien entendu, pour atterrir au Bourget avec un avion privé, il faut demander l'autorisation et la voir. On peut atterrir là. Et là, surprise, il n'avait pas été prévenu, ce monsieur, donc, qui s'appelle Pavel Dourov, a été attrapé par la police française avec des chefs d'inculpation gravissimes, puisqu'il reste dizaines d'années de prison aux lois en termes de législation française. Qui est ce monsieur ? Alors, qui est Pavel Dourov ? Alors, vous ne connaissez pas Pavel Dourov, vous avez peut-être de bonnes raisons de ne pas le connaître, mais vous connaissez certainement la plateforme informatique dont il est le créateur et dont il est le principal bénéficiaire financier. Hein. Il faut savoir que ce monsieur est riche. Hein. Il vit à Dubaï, il a des avions privés, peut-être un, peut-être plusieurs, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Il a la trentaine juste passée. Oui, même pas. Dis-moi, 32 ?
26 ans.
26, voire encore plus, voilà. Donc il a monté cette plateforme Telegram avec succès, ça marche bien, et donc il commence à embarrasser les puissances occidentales. Non pas parce qu'il dit du mal des puissances occidentales, mais il s'est fixé comme règle que les gens qui intervenaient sur Telegram disaient ce qu'ils avaient à dire, et que c'était eux qui prenaient le risque de mal interpréter, à la limite de dire un mensonge volontairement, et que ce n'était pas à lui de dire « ça je le laisse passer, ça je le laisse pas passer ». C'est-à-dire il s'est situé à l'écart des règles fixées par le camp impérial occidental, de dire « nous acceptons les plateformes », genre les plateformes qui sont sur Meta maintenant, donc Facebook, Instagram, à condition que ces plateformes acceptent des principes de régulation, c'est-à-dire que vous savez que Facebook peut fermer un compte parce qu'aux États-Unis, on lui a dit qu'il fallait le fermer. Hein. Même chose pour Twitter, etc. Bon. Donc, il y a des plateformes disciplinées qui acceptent les ordres des États-Unis et de la communauté occidentale, et puis il y a des plateformes non disciplinées, c'était le cas de Telegram, c'est aussi le cas d'une autre qui s'appelle Rumble, qui disent non, nous on laisse les gens parler, et à chacun de se faire son opinion sur ce qui est exprimé là-dessus. Nous ne censurons pas au nom d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre. Bon. Alors ça, c'était inacceptable dans son principe depuis longtemps, et puis là tout d'un coup, il a été décidé que l'Occident allait sévir contre M. Dourov. Et qui a été chargé de la sale besogne, la besogne occidentale? Eh bien, c'est l'agent des services états-uniens qui loge au palais de l'Élysée. Je maîtrise mes mots. C'est l'agent des intérêts états-uniens qui loge dans le palais de l'Élysée qui a été chargé de faire cette sale besogne, c'est-à-dire de prendre ce monsieur à la sortie de son avion, sans l'avoir évidemment prévenu. Il arrivait d'Azerbaïdjan. Il avait sans doute de bonnes raisons d'être allé, parce qu'il va où il a envie, et donc de le mettre aux arrêts, on l'a vu avec ses menottes et tout, et de lui annoncer qu'il pouvait en avoir pour 20 ans. Donc là encore, l'agent états-unien qui vit à l'Élysée jusqu'à nouvel ordre, je dis jusqu'à nouvel ordre, obéit aux États-Unis. Alors pourquoi il le fait lui? D'une part, alors il y avait une raison juridique technique qui est qu'effectivement, en 2021 je crois, Pavel Dourov a demandé la nationalité française. Ce qui voulait dire qu'il se sentait un petit peu abrité, il avait un petit peu confiance, il a dit non ici t'es tranquille et tout, tu pourras faire ce que tu veux. Et puis en fait il a été trahi, ça lui apprendra à faire confiance à Emmanuel Macron. Alors c'est déjà arrivé à plusieurs dizaines de millions de Français de faire confiance à Macron, je ne lui en veux pas, à lui particulièrement, mais ça lui apprendra. On ne fait pas confiance à Emmanuel Macron, surtout quand M. Emmanuel Macron reçoit un ordre clair des États-Unis. Et pourquoi les États-Unis le disent de faire ça? Parce que les États-Unis ne sont pas aujourd'hui en capacité politique de prendre une position officielle de ce type-là, c'est-à-dire d'arrêter M. Pavel Dourov. Alors, je ne sais pas s'il va aux États-Unis, mais là, c'était très facile. Il y avait le prétexte, donc la nationalité française nouvellement acquise, et puis le fait que l'Élysée, Emmanuel Macron, était prêt à tout dès l'instant où il recevait un ordre des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a vraiment une symétrie des deux situations. Il y a un ordre des États-Unis pour dire que les Sahraouis ne doivent pas être autodéterminés. Il y a un ordre des États-Unis disant que Telegram doit être saboté. Monsieur Macron exécute. Ce n'est qu'un exécutant. Que les choses soient tout à fait claires. Bon. Un mot quand même sur cette conférence japonaise-Afrique. Je disais, il n'est pas le seul pays à le faire. Et j'avais un petit sourire dans ma moustache en disant, au fond, le gouvernement japonais, il défend les intérêts des entreprises japonaises. Personne ne saurait le lui reprocher. Et je dis, qu'est-ce qui intéresse beaucoup le gouvernement japonais dans ces pays-là et quelques autres aux alentours? Qu'est-ce qui se vend le plus? Alors, imaginez, réfléchissez dans vos têtes, quel est le produit japonais qui se vend le mieux dans des zones de conflit et des zones où sévit le terrorisme. Vous avez déjà vu des pick-up Toyota avec une mitrailleuse sur la plage arrière. Ben c'est ça, hein. Le Toyota pick-up avec une mitrailleuse, sur lequel on met une... Alors, la mitrailleuse n'est pas livrée par Toyota lui-même, hein. Mais on rajoute une mitrailleuse et on a un espèce de petit véhicule militaire très efficace, très solide, de qualité japonaise, il n'y a pas de souci et tout, qui tient bien la route, qu'on peut alimenter en gasoil volé, etc. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et, alors, il n'y a pas que ça. Hein, l'industrie japonaise a d'autres capacités que Toyota, dans l'optique, dans la photo, dans l'état de secteur. Il ne s'agit pas du tout de dénigrer l'industrie japonaise, mais au fond, c'est ça qui se vend en Afrique. C'est des pick-up. C'est des pick-up qu'on va retrouver quand il y aura un attentat contre l'armée malienne. Ce sont les mêmes pick-up de chez Toyota, ou au Niger, ou au Burkina Faso. C'est ça. Hein. Alors, ça paraît. Alors, je dis, les Japonais ne vendent pas que des pick-up Toyota, mais quand même, c'est un produit, on dirait en commerce, c'est un produit d'appel. C'est une de leurs meilleures ventes sur le continent africain et dans les pays arabes. Le terrorisme de base, c'est piloter un pick-up Toyota et son collègue qu'il a à l'arrière, c'est utiliser une mitrailleuse pour faire avancer les affaires du terrorisme, pour être simple. Voilà ce qu'il était important de dire pour resituer ce sommet Japon-Afrique. Alors je dis, il y en a d'autres pays qui font ça. Tout le monde essaye de vendre aux pays africains, surtout quand on sait que les pays africains ont de l'argent, pas trop. Ils pourraient en avoir beaucoup plus s'ils fabriquaient eux-mêmes toute une série de produits industriels. Ils ne les font pas. Donc ils vendent des minerais, ils vendent du pétrole, et puis ils ont un petit peu de trésorerie, et donc ils peuvent acheter du matériel. J'ai lu d'ailleurs avec plaisir, on en reparlera, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller voir plus loin, que le Burkina Faso allait se mettre à construire des trains. Alors là, ça devient très très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement l'Afrique a un gros retard en matière d'équipement ferroviaire, et on sait, à regarder la carte du continent africain, que les lignes ferroviaires existantes sont simplement destinées à aller d'une mine au port d'embarquement du minerai. Bon, ça s'est toujours fait. Mais un vrai réseau concernant la population et des échanges de marchandises entre l'intérieur et la côte du pays, ça n'existait pas. Si le Burkina se met à fabriquer des rames de train, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Alors ce sera peut-être sous licence chinoise ou japonaise, on verra bien. Mais c'est la réflexion qui est en cours maintenant, on le voit dans un certain nombre de gouvernements, et qui devrait se développer le plus possible, c'est-à-dire ne pas simplement fournir des matières premières pour les colonialistes, mais avoir une industrie propre et donc former un personnel et former une classe de travailleurs, même à la limite, j'allais dire, une bourgeoisie d'affaires qui fait cruellement défaut dans ces pays-là. Voilà pour ce qui était de M. Macron et de ses activités. Je ne parlerai pas des activités en France, ce n'est pas très très intéressant. Enfin, vous suivez ça aussi bien que moi. Et donc, je voulais vous parler, puisque j'ai cité le mot d'Azerbaïdjan, d'une réunion qui a eu lieu donc, il y a quelques jours déjà, c'était même avant la semaine dernière. Le président russe s'est rendu en Azerbaïdjan, dans la capitale, Bakou, qui, vous le savez, est au bord de la mer Caspienne. Et a eu des entretiens assez prolongés avec le président azéri, M. Aliyev, fils de son père, ancien dirigeant de la MMO. De quoi ont-ils parlé ? Ben de choses d'avenir. De choses d'avenir, c'est-à-dire que M. Poutine est venu rappeler que dans le conflit du Haut-Karabakh, vous savez, cette fameuse enclave arménienne à l'intérieur du territoire azéri, la Russie était intervenue au nom d'un traité d'assistance qu'elle a avec l'Arménie pour dire « arrêtez le massacre hein, ». Et donc ils avaient effectivement envoyé des troupes qui ont évité que les Arméniens qui vivaient dans cette province-là soient tous passés par les armes parce que ça en prenait le chemin. Et donc depuis, il était dit que c'était une situation d'armistice qui ne peut pas durer indéfiniment. Et donc, un des thèmes de l'entretien donc, de ces deux présidents a été la préparation d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Traité de paix qui n'a jamais existé, puisqu'il s'agit de deux anciennes républiques soviétiques dont les frontières ont été décidées par l'URSS et il ne s'est jamais rien passé que des actes d'hostilité de l'un envers l'autre. Donc, quand Poutine arrive, je suis là, je vous rappelle que quand nécessaire, je peux envoyer mon armée pour vous séparer, mais je voudrais éviter ça, et je voudrais d'autant plus l'éviter, ce serait d'autant plus facile que vous auriez signé un traité de paix, je serai là pour discuter avec vous dans les coulisses, des conditions et tout, et des garanties, hein, mais calmer cet endroit-là pour que ça ne devienne pas un endroit où chacun vient faire des complications, chacun crée des abcès. Hein, je pense à chacun, c'est Washington, pour être très très clair. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Et en même temps, il dit, c'est très intéressant que cet endroit devienne un endroit calme avec un traité de paix qui n'a jamais existé. Donc il pense à l'avenir. Et puis c'est intéressant par rapport au système de transport régional au sens large, c'est-à-dire que c'est par là que doit passer une partie du trafic entre l'Inde et la Russie. L'Inde, on passe par le golfe Persique, on remonte par l'Iran, on arrive sur la mer Caspienne, et puis on peut arriver là, aussi bien en Azerbaïdjan que en Russie. C'est très important, parce que l'accord entre ces pays, il faut savoir qu'il existe, alors la mer Caspienne, vous allez dire, c'est une mer comme les autres, les pays riverains ont des eaux territoriales, et font leurs affaires dans les eaux territoriales, et après il y a une mer internationale. C'est pas vrai. La mer Caspienne est une mer très particulière, d'abord elle est fermée sur elle-même, où chacun des pays a une partie de la mer, mais où aucune décision ne peut intervenir sans l'accord de tous les autres riverains. C'est donc plus proche de la gestion d'un lac, si vous voulez, que de la gestion d'une mer. Et donc il est très très important que l'Iran qui est riverain, que l'Azerbaïdjan qui est riverain, que la Russie qui est riveraine, que le Turkménistan qui est riverain, que le Kazakhstan soient d'accord sur une gestion commune et pacifiée de cette ressource importante en termes de transport, puisque c'est en fait une alternative au commerce entre l'Asie d'une façon générale et l'Europe de l'autre côté, qui n'est pas la ligne, j'allais dire, la ligne chinoise pour faire simple, qui consiste à aller d'est en ouest tout droit. Là, c'est une ligne qu'on appelle une ligne sud-nord. Donc, vous voyez dans l'image, c'est Inde, Golfe Persique, Iran, mer Caspienne. Tout ça se met en place. Donc, ça veut dire, au passage, c'est pas histoire de lui tirer mon chapeau, mais que ce monsieur, même s'il a l'air un peu fatigué, je reconnais qu'il a l'air un peu fatigué, il a de bonnes raisons de l'être, monsieur Poutine, il fait son travail de chef d'État. C'est-à-dire, il pose des pions pour la suite. Et des pions pour la suite, ce n'est pas des pions pour faire la guerre aux Azerbaïdjans, ce n'est pas la guerre à l'Arménie, qui en même temps lui fait un peu des misères, ce n'est pas pour faire la guerre aux Iraniens, surtout pas, c'est pour essayer de stabiliser cette zone et que le problème principal de tous les pays riverains soit leur progrès collectif. C'est bien ça. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'on nous en a fait une telle image de ce personnage Vladimirovitch, toujours prêt à faire la guerre, qu'on ne veut pas voir quand il prend des initiatives allant dans un autre sens. Mais il en est tout à fait capable, il y est même volontaire. Bon. Je reviendrai un moment venu sur la guerre. Et donc, c'était important de souligner ça parce que ça veut dire qu'il y a toute une série d'endroits où les choses, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent pour essayer de calmer le jeu. Et je vais en citer un dont on parlait tout à l'heure avant l'émission, qui est M. Modi, le président, donc, le premier ministre indien, qui a été réélu. Pas brillamment, puisqu'en fait, il s'attendait à avoir une majorité écrasante avec son seul parti. Il a été obligé de nouer des alliances parce que les résultats n'ont pas été aussi bons que prévu. Mais M. Modi a quand même réalisé tout d'un coup, et je pense tout d'un coup, je ramène ça au récent coup d'État au Bangladesh, que les États-Unis lui voulaient du mal. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire, les États-Unis veulent du mal à l'Inde? Ben, ça veut dire que les États-Unis ont fait tous leurs efforts et continueront à les faire pour que l'Inde s'aligne sur les positions états-uniennes dans cette zone-là du monde. Donc position anti-chinoise, position d'encerclement de la Chine populaire, avec l'appui, bon, on le sait, des Australiens, des Néo-Zélandais, et un peu, quoique en demi-teinte, le Japon est obligé de suivre sans être absolument convaincu que c'est la bonne solution, mais le Japon est en incapacité physique ou politique de prendre des décisions automes depuis 45, depuis les bombardements atomiques. Bon, c'est comme ça, on peut le déplorer pour les Japonais, mais c'est un peu comme ça. Et donc M. Boni a fait... il a tiré les enseignements d'une certaine façon donc du changement de gouvernement, puisqu'on est encore sous un gouvernement provisoire, mais enfin on voit à peu près venir les choses au Bangladesh, pour s'apercevoir que les États-Unis avaient contribué et avaient réussi à imposer un gouvernement qui est beaucoup plus proche des États-Unis que le gouvernement sortant de Mme Hassina. Alors beaucoup plus proche, oui, d'une certaine façon, oui, et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire que l'armée, j'insiste sur cette question-là, l'armée bangladaise n'a pas pris position pendant le coup d'État qui a eu lieu. Elle a laissé faire. Bon. Elle va se retrouver à des postes décisifs pour la sécurité nationale et pour la politique étrangère dans le futur gouvernement qui va être mis en place. Donc on n'a pas affaire à un pays qui a basculé complètement dans l'orbite états-unienne. On a un pays qui a changé d'équipe dirigeante. Une bourgeoisie plus pro-occidentale que la bourgeoisie précédente a pris la place, mais on n'a pas un renversement d'alliance. Et donc M. Modi a compris quand même, on dit là, carrément, il a senti le vent du boulet, c'est-à-dire il s'est dit là, avec cette nouvelle équipe qui prend le pouvoir à Dakar, les États-Unis qui sont derrière, il faut que j'assure mon autonomie au moins vis-à-vis du monde. Et assurer son autonomie vis-à-vis du monde, ça a consisté à faire un double voyage la semaine dernière. Il est allé voir le président ukrainien et il est allé voir ensuite le gouvernement polonais. Donc ce n'était pas tout à fait par hasard. Il a choisi les deux principaux alliés des États-Unis, sur place, les deux voisins de, les voisins de l'Ukraine et de la Russie, pour aller leur dire, non pas je suis contre la Russie, pas du tout, puisqu'il se souvient quand même qu'il y a un peu plus d'un mois, il a été reçu en grande pompe et en détail par le président russe, mais tout le monde devrait s'efforcer de rechercher la paix. Personne ne peut rien dire contre. Et donc il est allé dire ça à M. Zelensky, il est allé dire ça au gouvernement polonais en disant, il faudrait quand même rechercher la paix, sous-entendu, vu la tournure des événements, enfin je parle à sa place, là, vu la tournure des événements, il faudrait quand même mieux trouver une sortie dite négociée au conflit, parce que là, militairement, vos affaires ne sont pas très très brillantes. Il a dû dire ça entre quatre yeux à M. Zelensky, qui le sait d'ailleurs fort bien. Bon. On a donc une espèce de reconstruction du personnage qui, s'appuyant sur son soutien, le soutien très clair de la Russie qu'il a, se positionne maintenant en leader du, alors on dirait du sud global, au moins un personnage indépendant qui intervient dans la politique internationale et qui intervient sur les grands sujets de la politique internationale. C'est vrai que le conflit d'Ukraine est un grand sujet de la politique internationale. Pour l'instant, il n'a pas pris position sur le conflit palestinien parce que les relations entre l'Israël et l'Inde étaient quand même un peu trop étroites pour qu'il prenne ce risque tout de suite. Mais je pense qu'il sera un jour obligé de le prendre, ne serait-ce que parce que ce conflit palestino-israélien sera l'occasion pour la minorité indienne, la minorité musulmane indienne, c'est-à-dire quand même 200 millions d'habitants, de commencer à se fâcher plus qu'elle ne le fait. Mais ça viendra plus tard. Là, il a déjà il est en train de créer un personnage de monsieur qui cherche la paix, qui pèse lourd sur la scène internationale, qui n'est lié objectivement par aucun traité, par personne, mais qui a des amis, la Russie, qui en a d'autres un peu moins amis, et qui essaye d'intervenir dans un sens du progrès général de l'humanité, c'est-à-dire la paix. Qui pourrait lui reprocher de faire ça? Donc l'évolution du personnage est à suivre, et je pense qu'on la suit autant aux États-Unis qu'ailleurs, parce que pour les États-Unis, ce n'est pas exactement ça qu'ils voulaient. Parce qu'en installant donc le nouveau gouvernement bangladais, en obtenant de ce nouveau gouvernement, ce qui n'est pas fait à l'heure où je vous parle, mais je me tiens au courant autant que possible, une base militaire sur la fameuse île de Saint-Martin, pour l'instant, les États-Unis ont marqué que quelques points. Mais ils n'ont pas réussi à mettre le gouvernement bangladais dans leur poche, et ils n'ont pas réussi non plus, c'est la preuve, à mettre le gouvernement indien dans leur poche, et je pense qu'ils n'y arriveront probablement pas, parce que le nationalisme un peu exacerbé de M. Modi a ce côté positif qu'il n'aime pas recevoir des ordres, même si c'est de plus gros que lui, militairement et politiquement. Mais lui, il se considère quand même un gros sur la scène mondiale, et il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Voilà donc des facteurs d'évolution autour de cette région-là du monde dont on reparlera, je pense, beaucoup dans les mois qui viennent, puisque les États-Unis ont réussi un deuxième coup consistant à laisser revenir au pouvoir une équipe corrompue jusqu'à la moelle à la tête de la Thaïlande, hein, que nécessairement le conflit au Myanmar va rebondir parce que les États-Unis vont mettre le feu dessus, que ça va encore compliquer les choses. Il faut savoir, juste un mot là-dessus, que les fameux Rohingyas, les musulmans sur lesquels on nous a fait pleurer, à juste titre, d'une certaine façon, au titre humanitaire, et qui habitent donc dans le nord du Myanmar, sont particulièrement mal vus au Bangladesh et en Inde, parce qu'ils se sont plutôt, comme ils ne trouvaient pas de travail, ils étaient des réfugiés plus ou moins acceptés, ils se sont beaucoup convertis dans le banditisme. Et donc les Rohingyas sont assez mal vus. Tout ce que j'ai pu lire sur le Bangladesh et sur l'Inde de l'Est, c'est qu'on ne les apprécie pas trop parce qu'on les a plutôt trouvés dans les gangs que dans les gens, même de travailleurs immigrés exploités. Parce qu'effectivement, il y a suffisamment de main-d'œuvre au Bangladesh, je rappelle, 170 millions d'habitants, que la main-d'œuvre immigrée exploitée n'a pas trop trouvé sa place. Bon. Voilà pour M. Modi, ce qui méritait d'être dit. Ensuite, alors, je vous ai parlé de Telegram, de M. Pavel. Alors, ça va évoluer d'un jour à l'autre, parce que on ne sait pas comment... D'abord, les gens qui vont réagir, comment M. Nourov va organiser sa défense, si M. Macron, qui a donc obéi à un ordre venu des États-Unis, va pouvoir tenir sa position facilement. Mais ça mérite d'être suivi de près. Et je vais revenir un peu un peu sur la zone africaine. Alors non pas spécialement sur le Maroc et la République Sahraoui, mais un peu plus au sud, sur ce qu'on appelle le Sahel, et sur les fameux membres de l'AES, la Confédération, donc je le rappelle, Mali, Burkina Faso, Niger. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Et ça, on ne vous le dira plus parce que ça ne fait pas joli dans le tableau. Alors, autant on vous a parlé de la fameuse embuscade que j'ai évoquée la semaine dernière, où donc le bataillon de Wagner intégré dans l'armée russe a été sévèrement attaqué, a perdu beaucoup de matériel et d'hommes, autant on ne vous a pas parlé des suites. Et les suites, c'est très intéressant. Et je vais vous lire une dépêche qui est parue sur Russia Today, qui dit: où vont les terroristes chassés du nord du Mali ? Parce qu'il faut savoir que l'armée malienne est allée commencer à les chercher là où ils étaient, dans les grottes, donc à la limite de la frontière algérienne, et a commencé à essayer de les attraper. Donc dans ces cas-là, et c'est facile effectivement dans le Sahara, c'est facile de s'en aller nuitamment et de s'en aller ailleurs. Où sont-ils ? Écoutez bien. Les terroristes chassés du nord Mali s'orientent vers les forêts du nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Attirés, je vous lis la dépêche, attirés par cette zone difficile d'accès où ils peuvent se livrer à une extraction illégale d'or, au braconnage. Le commerce transfrontalier leur profite également à travers la circulation intense des personnes et des marchandises. En effet, les produits pétroliers qui arrivent au Mali et au Burkina, à partir des ports situés sur la côte ivoirienne, passent là, à cet endroit-là, précisément sur la frontière. Pour cette raison, et écoutez bien, Abidjan, donc le pouvoir en place à Abidjan, avait installé à la frontière avec le Mali et le Burkina des bases militaires avec un contingent d'environ 2500 soldats. De plus, une académie internationale de lutte contre le terrorisme fonctionne à Jacquesville. L'établissement est cofinancé par, écoutez bien, l'Australie, l'Union européenne, le Canada et la France. Que la France, soi-disant, elle ne fait plus rien dans cette zone-là du monde, elle fait des choses. Elle fait des choses et elle rend la vie facile aux terroristes. C'est ça qu'il faut souligner. Hein. De la même façon qu'elle rend la vie facile aux colonisateurs marocains qui s'approprient le Sahara, voilà le rôle de la France. C'est-à-dire, quand on dit que la France a disparu, non. La capacité de nuisance de la France coloniale s'est affaiblie, mais elle continue avec l'aide donc de ceux qu'on a envoyés à sa rescousse, donc Australie, Canada, elle contribue à maintenir le terrorisme en activité et en bonne santé financière. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ces messieurs-là vont se remplir les poches en vendant de l'or ou en braconnant. Hein, alors vous allez recevoir, je ne sais pas quoi, des cornes d'éléphant ou des choses comme ça, parce que ça fait partie du braconnage dans ces zones-là. Et puis en fait, une fois qu'ils auront cet argent-là, ils achèteront des pick-up Toyota, on revient, la boucle est bouclée, et ils iront tuer des citoyens burkinabés, maliens, etc. Alors ça, c'est très intéressant, ça fait comprendre qu'en fait, ces trois pays qui sont indépendants ont une difficulté à assumer leur indépendance puisqu'ils sont ce qu'on appelle, en termes géopolitiques, enclavés. C'est-à-dire que la marchandise qu'ils peuvent fabriquer, ils peuvent se la vendre entre eux à tous les trois, mais tout ce qui peut être exporté va passer par un des pays voisins qui n'est pas un ami, et tout ce qui peut être importé va aussi passer par un des pays voisins qui n'est pas un ami. Ça veut dire que cette espèce d'abcès indépendant, enfin, cette coalition indépendante-là, va forcément essayer d'avoir un accès à la mer avec un régime ami. Alors le régime ami, ça peut être soit le Sénégal sur l'Atlantique, hein, voilà, c'est pas gagné, mais on sent qu'il y a des mouvements là-dedans, au moins dans la population sénégalaise. Le gouvernement sénégalais doit être un peu coincé sur cette affaire-là, mais la population sénégalaise commence à comprendre. Et ils se rappellent, à juste titre, s'ils ont un peu de mémoire, que du temps de Modibo Keïta, le Mali allait jusqu'à Dakar. Donc il y avait union des pays et que là, il y avait un accès à la mer. Et donc la véritable indépendance économique était possible. Là, elle est difficile. Même chose, autre blocage énorme du côté de Alassane Ouattara, qui effectivement contrôle les entrées et les sorties du commerce international. C'est vrai aussi pour le Togo, c'est vrai aussi pour le Bénin, puisque c'est les trois pays par où ça passe. Donc là, on a potentiellement un conflit qui prend sa forme, c'est-à-dire on a trois pays qui veulent leur indépendance totale, politique, économique, industrielle éventuellement, et dont les voisins ne veulent pas. dont les voisins ne valent, mais les voisins sont aux mains des néocolonialistes. Alors, plus ou moins, de façon plus ou moins affichée, hein, je pense à, pour Ouattara, c'est dramatiquement affiché, pour la nouvelle présidence sénégalaise, ça l'est un peu moins, mais on a là un vrai problème, c'est-à-dire l'accès à la mer est décisif pour assurer une économie réellement indépendante. Donc, ça fait partie de l'évolution de ce dossier-là qu'il faudra qu'on suive.
Mais, hop. Et il me semble aussi que la Mauritanie est anti-AES.
Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de possibilité de sortie par la Mauritanie pour l'instant non plus. Non. Donc, effectivement, il y a ce verrouillage qui pose problème. L'Algérie, on a vu qu'elle n'est pas... Puis c'est très loin, en plus. C'est très, très loin. C'est un long parcours. Mais il se passe des choses intéressantes et dont on n'a pas beaucoup parlé. Et je comprends pourquoi. C'est-à-dire que ces trois pays ont un voisin au nord. Alors, il y a l'Algérie d'un côté, mais ensuite, il y a la Libye. Or, on sait qu'une bonne partie, du trafic de migrants, j'appelle ça comme ça pour faire simple, chacun a compris de quoi il s'agit, passait par la Libye. Or, ce qui est en train de se passer, et information sur laquelle on ne nous a presque rien dit, c'est que le gouvernement libyen, tout faiblard qu'il soit, s'est mis d'accord avec ces pays-là, en disant, nous, on va arrêter le trafic de migration. Et ça n'a pas été simplement des paroles, puisqu'il y a eu une opération menée par le gouvernement libyen à la demande des trois pays de l'AES pour dire, maintenant, on s'en prend aux trafiquants de migrants. Et ils ont investi des camps de trafiquants de migrants où il y avait tout ce qu'il fallait, de drogue, d'argent, de prostitution, etc., pour dire, maintenant, c'est fini. Vous ne passez plus par la Libye. Et c'est ce qui est en train de produire des effets. Regardez, vous ne voyez plus de dépêches disant « il est arrivé à Lampedusa ou ailleurs, des bateaux de migrants ». Il y en aura de moins en moins. Je ne dis pas que quelques-uns vont passer à travers les mailles du filet, mais on a un accord du gouvernement libyen pour que les gens qui fuient cette zone-là ne passent plus par chez eux. Et qu'il n'y ait pas tout ce pourrissement de la Libye qui est lié à l'existence de ces groupes terroristes, trafiquants de main-d'œuvre, trafiquants de drogue, etc., qui, de fait, faisaient la loi depuis 2011 dans le pays. Quel résultat ça a provoqué ? Eh bien, maintenant, si vous entendez parler de l'arrivée de migrants, de quoi on vous parle ? Par où ils passent ? Parce que le besoin... Ben, vas-y.
Oui, là j'ai vu que le Premier ministre espagnol était en ce moment en tournée dans certains pays, notamment le Sénégal, pour empêcher l'émigration vers l'Espagne.
Voilà, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la mesure, mais les deux sont liés, c'est-à-dire dans la mesure où l'exutoire libyen est fermé, donc où tout ce trafic d'hommes, hein, puisque c'est des marchands d'hommes qui font ce travail-là, des marchands de drogue, des marchands d'hommes, des proxénètes, etc., il n'a pas perdu...
Des mercenaires.
Des mercenaires. Il va passer par ailleurs. Et par où il passe ? Tout le monde le sait. Mais faites la relation entre les événements. La Libye s'est fermée. Qu'est-ce qui s'est ouvert ? C'est les Canaries. C'est les Canaries, colonie espagnole, à petite distance, disons, de la côte ou mauritanienne ou sénégalaise. Et une fois qu'on est aux Canaries, on est en Europe, on est dans la zone Schengen. C'est aussi bien que l'Italie, antérieurement, du temps où le système libyen fonctionnait. Et c'est pour ça que M. Sanchez est en train de s'inquiéter. Parce que lui, il a bien compris, et puis il a les chiffres, et puis il voit l'arrivée des bateaux. Alors dans les bateaux, il y a comme il y avait en Méditerranée des gens qui se noient tous les jours. Enfin, l'horreur reste la même. Elle a simplement, le flux a été combattu par les trois puissances de l'AES, en accord avec le gouvernement libyen, et il s'est détourné. Car on ne tarit pas ce flux en une journée, dans la mesure où on ne tarit pas en une journée les rapports d'exploitation des puissances occidentales sur ces pays-là d'Afrique. Et donc la misère qui y règne. Bon. Mais c'est ça, et c'est ça que je voulais faire, c'est-à-dire mettre en relation les deux événements. Le verrouillage de la Libye, c'est terminé. Le trafic de main-d'œuvre, c'est terminé par la Libye. Donc ça passe par les Canaries, et donc M. Sanchez s'affole. Ah, mais ils arrivent chez moi. Et je ne sais plus où les mettre, parce que les Canaries, c'est petit. Alors il en était à dire, j'ai d'abord mis des tentes, etc., pour faire joli. Et puis là, il y a tellement de monde qui arrive ces dernières semaines que ça prend des proportions qui inquiètent le gouvernement espagnol. Mais ça t'apprendra, M. Sanchez, à être ambigu. Sur la question de la Palestine, tu es ambigu. Sur le Sahara espagnol, tu as trahi les Sahraouis. Hein, et là, tu as des ennuis, ça t'apprendra. Hein, à force de manger à tous les râteliers, M. Sanchez, on finit par se prendre les pieds dans le tapis. Bon, c'est comme ça. Mais je voulais faire ce point sur les mouvements migratoires parce qu'on ne nous l'expliquera pas et on n'expliquera surtout pas pourquoi tout d'un coup ça passe plus par la Libye. Alors c'est pas parce que l'Italie a changé de politique, c'est rien du tout, c'est parce que le gouvernement libyen a décidé de dire que ça suffisait et que de toute façon il ne gouvernerait pas tant que ce seraient les voyous qui gouverneraient le pays et qui gagneraient beaucoup d'argent pour ça. Voilà, quelques données là-dessus qui méritaient d'être précisées. Ensuite, je voulais dire deux mots, je regarde là, oui, sur la Cour pénale internationale. Alors, à quel propos ? Ben, il se trouve que le procureur général, M. Imran Khan, Karim Khan, je mélange les Khan, M. Karim Khan, procureur général auprès de la Cour pénale internationale, a réitéré qu'il serait bon que la Cour pénale internationale émette des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et contre son ministre des Affaires étrangères. Mais ça fait déjà des mois qu'il dit ça. Et ce pauvre procureur général qui se bat les flancs, qui dit « Mon Dieu, mais enfin, quand est-ce qu'on émet des mandats d'arrêt, etc. ?» Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Alors pourquoi ça ne vient pas ? Parce que, en fait, ça fait partie de la comédie de ce monsieur. Monsieur Karim Khan joue la comédie de la Cour pénale internationale, met en alerte les moyens médiatiques internationaux en disant « Ah oui, il va bientôt y avoir un mandat d'arrêt contre Netanyahou ». Le problème, c'est que le propre personnel de monsieur Karim Khan ne fait rien dans ce sens, parce qu'il y a autour de lui des procureurs, lui, les procureurs généraux, et il exprime le travail, l'avancée des recherches des procureurs. Alors il se trouve qu'il y a toute une équipe de procureurs qui a été étoffée. Alors on nous souligne là, l'équipe des procureurs de la CPI a été étoffée. Mais à quoi passent-ils leur journée ? Ils ne voient rien sur ce qui se passe à Gaza. Mais comment ça se fait ? Ils ne regardent pas la télévision ? Ils ne savent pas lire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les procureurs sont de plus en plus nombreux et ils produisent de moins en moins de résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la CPI se moque du monde. Et M. Karim Khan le sait. Parce que je rappelle que quand il a été question d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, là, alors, les procureurs, aussi peu nombreux qu'ils étaient à l'époque, ont tout de suite signé et le mandat d'arrêt est sorti. Donc il y a bien un traitement politique des affaires par la Cour pénale internationale. Et donc j'affirme, je redis, si je ne l'ai pas dit à cette antenne, que la Cour pénale internationale, de ce point de vue-là, n'arrive à rien. N'arrive à rien parce qu'elle a décidé de n'arriver à rien. Et je vais en finir, oui, ça va, je vais en finir par un sujet. Je reviens en Afrique, vous voyez que tout tourne autour de ce continent africain, à propos des relations entre l'Ukraine et l'Afrique. Et j'ai sous les yeux une dépêche qui précise que l'ambassade d'Ukraine à Abidjan est suspectée d'entretenir des combattants djihadistes. L'ambassade, carrément, c'est pas une office d'embauche de terroristes. Non, c'est l'ambassade qui sert de point d'entrée de terroristes, point d'information et point de formation peut-être même à des terroristes venant sur le continent africain. Et donc le Mali, pour cette raison, au début du mois d'août, a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine en disant « Mais je sais d'où viennent les gens que je combats dans le nord du Mali et que maintenant ils vont donc combattre au sud du Mali à la frontière ivoirienne. » Et tout ça passe par l'intermédiaire des Ukrainiens. Je rappelle et je souligne que le gouvernement ukrainien de M. Zelensky a reconnu, ce n'est pas une invention de journaliste, il a reconnu qu'effectivement, ils aidaient les groupes terroristes à intervenir en Afrique. Eh bien, croyez-moi, mais les trois pays de l'AES ont demandé au Conseil de sécurité, vu les aveux du gouvernement ukrainien, de se saisir du dossier, de dire ben, il faut les arrêter, ils n'ont rien à faire là-dedans, l'Ukraine n'a rien à faire là au milieu, hein, et puis quel travail ? Ils font un travail contre la paix, le Conseil de sécurité devrait ouvrir la question. Le Conseil de sécurité a refusé. Le Conseil de sécurité est complice de l'Ukraine. Alors ça en dit long. Alors ça me fait un peu de peine parce que j'aimerais bien que l'ONU soit respectable et propre. Mais effectivement, dans des circonstances pareilles, quand on voit qu'effectivement le Conseil de sécurité joue à celui qui n'a pas bien compris, qui veut fâcher personne, etc., le Conseil de sécurité de l'ONU, là, est totalement entre les mains des États-Unis et de son loyal ami français, de son loyal ami britannique, et c'est tout, point à la ligne. Alors que là, c'est patent. le gouvernement ukrainien a reconnu qu'il intervenait en Afrique. Il n'intervient pas pour défendre des positions diplomatiques. Alors, au début, on avait dit les nouveaux ambassadeurs d'Ukraine dans différents pays d'Afrique sont là pour des relations d'affaires, pour renouer des relations qui avant étaient celles de l'URSS. Bon, ça, on peut l'admettre. Mais c'est plus du tout ça. Maintenant, le masque est tombé. Il s'agit de soutien au terrorisme islamique. Et à qui ça profite ? Ben, on a compris. Comme tous les terrorismes islamiques, ça profite à celui qui profite le plus du terrorisme islamique, qu'il a inventé en Afghanistan et qui continue à la faire fonctionner. Mais là, il a trouvé un complice, obligé d'ailleurs, puisque le complice est obligé de recevoir de l'argent en grosse quantité des États-Unis pour continuer à faire ce travail-là, puisque l'argent en Ukraine, il n'y en a presque plus. Alors l'argent en Ukraine, il n'y en a presque plus, et il y a de moins en moins d'hommes, puisqu'on sait qu'entre les opérations qui ont lieu sur le front du Donbass et les opérations qui ont lieu dans l'Ouest, les petites opérations qui ont lieu dans l'Ouest de la province de Koursk, l'armée ukrainienne, ou l'armée sous uniforme ukrainien, pour être plus précis, parce qu'en fait, il ne s'agit plus d'une armée ukrainienne, il s'agit de quelque chose de composite, qui est encore un uniforme ukrainien, qui prend des ordres quelque part à Kiev, mais on ne sait pas qui a dans le bureau d'où partent les ordres, enfin, on a quelques idées. Et donc, l'armée ukrainienne perd des milliers de soldats tous les jours. C'est-à-dire que c'est 10 000 hommes de moins par semaine. C'est ça l'ampleur des combats à l'heure actuelle dans lesquels l'armée ukrainienne est en train de s'évanouir puisqu'elle disparaîtra probablement pour ça. Voilà donc ce qu'il méritait d'être dit sur le rôle de l'Ukraine. Et je vais en finir. Alors, c'est quand même un chef-d'œuvre.
Je voulais juste faire une petite parenthèse.
Vas-y.
J'ai vu que le Danemark fermait son ambassade au Mali.
Tout à fait.
Soi-disant, voilà. Suite au coup d'État, ils n'arrivent plus à faire leurs affaires là-bas. Donc, ils vont en ouvrir au Sénégal, au Rwanda et je ne sais plus.
Voilà, là où les gens sont encore un peu polis avec eux. Un peu soumis, j'allais dire. Hein. Rwanda, évidemment. Sénégal. Sénégal, toujours entre deux eaux, depuis le début, depuis cette élection, toujours entre deux eaux. Et puis, il y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Et il y a le Maroc, évidemment, mais là, ça a toujours fonctionné. Et je vais finir par la cerise sur le gâteau, par le triomphe de Kamala Harris. Parce que là, ça mérite qu'on s'y arrête. Ça mérite qu'on s'y arrête parce que quand vous regardez les grands médias occidentaux, ça a été, j'utilise le mot triomphe parce qu'il a été utilisé, c'est-à-dire que cette personne-là, qui n'a pas de programme, qui refuse toute interview personnelle avec tout journaliste, a été propulsée à la tête de la campagne démocrate et peut-être à la tête des États-Unis, donc à la Maison-Blanche, sans avoir un contenu qu'elle soit capable d'exprimer elle-même, parce que se sont coalisés derrière elle tous les anciens, toute la vieille garde démocrate, c'est-à-dire monsieur et madame Obama, les Clinton, madame, monsieur, etc., tout ce monde-là dit il faut sauver le parti démocrate qui nous a tellement réussi et qui nous a tellement bien nourris. Et comment ça se fait que ça s'est passé à ce moment-là? Alors, je formule une hypothèse qui, je pense, tient le coup, c'est la suivante. Ils savaient, les uns et les autres, tous ces gens qui ont monté l'opération Kamala Harris, savaient depuis le début que Biden ne tiendrait pas le choc ou qu'à la rigueur il serait élu le 6 novembre et qu'un mois après aussi bien il disparaîtrait parce qu'il était à bout de force. Bon. Donc il fallait organiser la transition. Mais organiser la transition en janvier de 2024, c'était exposer cette merveille, cette création fantastique de la politique qu'est Mme Kamala Harris à la critique. C'est-à-dire qu'elle n'aurait, et il savait très très bien, qu'elle n'aurait pas tenu le coup pendant 6 mois devant des journalistes. Elle était incapable d'articuler aucun propos. Et donc il a fallu faire traîner le plus possible pour arriver quasiment en septembre pour dire « c'est elle la candidate, heureusement il ne reste que 2 mois de campagne, le plus court sera le mieux, et pourvu qu'elle ne dise rien ». C'est à peu près ça. On a compris l'opération. Alors, l'opération est intéressante à suivre, mais elle est compliquée pour une autre raison qui n'était pas attendue et qui va peser de tout son poids. Donc Mme Kamala Harris va essayer de faire face pendant ce très très bref moment à des demandes de journalistes. Alors, il est prévu peut-être un débat avec Trump, mais quelle figure fera-t-elle? On ne sait pas trop. Donc elle va éviter ça et on va lui faire fabriquer des discours. Alors elle en a eu un pour clôturer la Convention démocrate, dont je retire juste un mot. Nous voulons avoir la première force de frappe du monde encore plus puissante. C'est ça le discours. Il n'y a pas de discours de paix de Mme Cavan. Il y a un discours, nous voulons avoir plus de bombes atomiques que les autres, c'est-à-dire les autres, hein, suivez mon regard, la Russie et la Chine. On veut être imbattable, on veut faire peur au monde entier, on veut continuer tel que nous sommes. Alors, je veux bien qu'on nous dise que les démocrates, c'est bien, mais elle a quand même dit ça. Elle a quand même dit ça. Et ça, c'est un élément clé de son discours. C'est-à-dire, je veux être la puissance qui domine, qui a dominé et qui va continuer à dominer. Le problème, c'est que dans le camp d'en face, il s'est passé un autre événement qui lui est très, très important. Alors on savait que déjà les perspectives, les sondages n'étaient pas très très sûrs pour une victoire de Trump ou une victoire de Kamala Harris, mais il s'est prévu, il s'est passé cette semaine un événement de première grandeur qui est le ralliement du fils de Robert Kennedy à la candidature de Trump. Alors là, explosion de colère. Alors ce monsieur a été traîné dans la boue par les grands médias qui soutiennent les démocrates, tous pratiquement aux États-Unis. Surprise qui s'est transformée en colère, oui, réelle. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Traître, enfin c'est vraiment une abomination. Il a sali le nom des Kennedy, etc. Il y a un véritable déchaînement contre M. Robert Kennedy Jr. Parce que, en fait, cet apport donc, d'un personnage qui passe pour un personnage relativement propre sur lui, il n'y a pas de scandale, etc., qui dit ce qu'il pense et qui a une approche particulière de la politique internationale, c'est là le point important, c'est à l'arrivée de ce personnage, risque de faire basculer l'électorat des États-Unis. Pour le peu qu'il y avait à basculer, ça se jouait, c'était très serré. Et donc là, en fait, dans la même semaine, les démocrates ont réussi à lancer la fusée Kamala Harris, qui ne brille pas de tous ses feux, et puis dans le même temps, il est arrivé un obstacle considérable qui fait qu'ils peuvent très sérieusement maintenant douter de la victoire. Et en plus, ce n'est pas simplement la victoire, c'est la victoire avec un apport politique de M. Robert Kennedy Jr., qui est surtout un apport politique sur les questions de politique internationale, donc dans le sens de la paix ou de la guerre. Alors qu'elle dit il faut que nous ayons la plus grande force de frappe du monde, lui, il ne dit pas du tout ça. Il dit qu'il faut arrêter les conflits. Et donc, effectivement, on risque d'avoir un basculement d'une partie des électeurs des États-Unis qui vont dire, mais en fait, on nous avait fait peur avec Trump, mais avec le discours que tient Kennedy, qui est maintenant dans l'équipe Trump, il a été ovationné dans les derniers meetings où il est allé. Ça a été un délire chez les Républicains, parce que les doutes qu'ils pouvaient avoir, certains d'entre eux, sur le personnage Trump, sont effacés par l'arrivée de ce personnage propre, qui n'est pas un milliardaire, qui a quand même un passé présentable, disons. Et donc, effectivement, l'élection est beaucoup plus ouverte qu'elle n'a jamais été, et elle est ouverte avec des perspectives de changement de politique des États-Unis. Et c'est ça qu'on ne vous dira évidemment pas ça, ni dans Le Monde, ni dans Libération, ni sur BFM, nulle part. Aucun moyen de masse de communication, puisque les moyens de masse de communication en France sont totalement alignés sur les positions des démocrates. On nous fait prendre Kamala Harris pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une dirigeante capable, intelligente, avisée, etc. Bon, effectivement, ce discours-là sonne creux, parce qu'il s'est passé cet événement-là. Donc voilà une perspective intéressante qui est ouverte. Et puis on va finir sur une petite musique d'une personne. Alors, c'est une chanson d'une chanteuse qui est décédée, mais on en parlera plus abondamment la semaine prochaine, parce que je n'ai pas eu le temps de faire des sélections de ces vidéos. Il s'agit de Catherine Ribeiro, qui était une chanteuse extrêmement engagée dans les années 70, qui est morte dans l'indifférence générale à 84 ans, mais qui portait un discours très rouge. Alors, fille d'ouvrier portugais, militante communiste, Catherine Ribeiro était d'abord une voix, un tempérament et une militante, comme on en fait plus beaucoup dans les rangs de la chanson dite de variété. Donc, écoute quelques minutes d'une chanson qui s'appelle « Folle Amérique », sur laquelle on reviendra parce que les paroles sont très très intéressantes, mais je vous les détaillerai la semaine prochaine. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve donc mardi prochain à 14h pour une nouvelle édition de Comaguerre. Merci Roselyne. Je chante.
temps chinois vert, je chante le blues de la détresse, le blues de nos blessures en verre. Vos musiques nous collent à la peau et dans nos cœurs déracinés, nos voix se touchent et s'entremêlent. Amour, love, jamais never, rien, nothing, la nuit, the night, soleil, the sun, hello, bonjour, Reagan, 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 Rimbaud. J'ignore si le dollar en fou vole cependant sont les bourses de Paris, de Londres, de Munich, dollar infarctus, dollar banqueroute, dollar dans nos têtes. Amour, love, jamais, never. Le ciel de tes doigts, cherches-tu encore?